طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على رسول الله. Donc on a vu la dernière fois question de tawhid, on a parlé des anges. On a parlé des anges en dernier cours. C'est ça, hein, tawhid. Et on a détaillé ce qui concerne les anges, hein. Je pense pas qu'on a laissé quelque chose, on a tout dit. Donc il faut ajouter maintenant à la croyance ce qu'on a dit, nous devons croire au livre envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des livres, tous les livres que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés et tous les prophètes qu'il a envoyés, nous devons croire à eux. Donc déjà, on a dit qu'il y a combien de prophètes qu'Allah a envoyés? 300. Hein? Non, les messagers sont combien? 300.
315 ou 314.
Voilà, voilà, tout à fait. Et il y a combien de prophètes? 124 000. D'accord. Alors, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils ont apporté une parole. D'accord? Ils ont apporté des livres, on va dire. Ça peut être des livres, on va dire. Mohim, ils ont apporté un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons, en tant que musulmans, croire à tout ce que Allah azza wa jal a envoyé. D'accord? Puisqu'on ne les connaît pas dans leurs détails. Mais ceux dont nous devons croire dans leurs détails, il y en a quatre. Alors, on a la Torah, qui est la Torah. On a l'Injil, qui est les évangiles. On a Zabur, comment on peut voir ça? Les psaumes. Et on a le Coran. Donc, vous êtes sûr, moi, j'ai peur des traductions. Vous êtes sûr?
Le Zabur, c'est les psaumes.
Sûr.
Ah oui, c'est
ça. Ah, oui, classe. C'est classe. Alors, la Torah a été envoyée à Sidna Moussa. La Torah. Mais là, on parle d'un musulman. Que musulman doit croire, il doit croire à l'existence de ces livres-là, qu'ils ont existé dans leur authenticité que les messagers ont ramené. Parce que après, en tant que musulman, nous croyons que la main de l'homme a touché ces textes. D'accord? Il y a une falsification.
Non. Écrit par exemple 1500 ans après. Oui,
c'est vrai.
Donc, comment on peut la croire ou pas croire, hein, si ça a été écrit par la main de l'homme 1500 ans après?
Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous devons croire? Nous devons croire qu'elle existe. Il y a un message.
D'accord, c'est l'existence en elle-même.
Bien sûr, c'est-à-dire, il y a une révélation.
Une révélation.
Ouais. C'est-à-dire, il y a un message, il y a des textes qui s'appellent la Torah. Il y a des textes, un message qui s'appelle les évangiles. Il y a des textes et un message qui s'appelle les psaumes. Nous devons croire qu'ils ont existé, c'est-à-dire authentiques. C'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'appelle comme ça. D'accord. Ensuite, bien sûr, ceux qui sont entre les mains, ils sont plus authentiques. D'accord. Et on est ouvert à des débats avec, tout en respectant les autres. On respecte ce qu'ils croient, ce qu'ils, etc. Mais nous, on considère que ces textes-là, c'est des textes écrits par l'homme, ceux qu'on a entre les mains aujourd'hui. Et les musulmans sont toujours ouverts au débat avec ceux qui prétendent qu'ils ont des textes, qui sont des textes, on va dire, divins. Il y a des grands débats dans des, avec des, bien sûr, c'est une spécialité. Moi, je ne prétends pas être un spécialiste dans ce genre de débat. Je n'ai pas beaucoup de science sur ces questions-là, de débattre avec, bien qu'on a débattu avec des chrétiens. Mais bon, on a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine. D'accord, qui connaissent les textes bibliques très très bien. Ils les ramènent par chapitre, par etc. Et leurs contradictions, etc., etc. Il faut connaître le latin, il faut connaître, etc. D'accord. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la Torah a été envoyée à Sidna Moussa, les évangiles, Injil, Sidna Issa, les psaumes, Sidna Daoud, le Coran, ou bien le Furqan, le prophète, Sidna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Nous devons croire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure des créatures. Faites très attention. La meilleure des créatures. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فبل عن الشقاق comme dit Sahib al-Jawhar رحمه الله. Alors malheureusement, on a des gens, c'est des musulmans, vous allez peut-être même trouver que c'est des gens qui s'autoproclament cheikh aujourd'hui, tout le monde est cheikh. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est une spécificité de ce ces fins des temps que tout le des gens qui n'ont pas ils n'ont pas droit d'avoir ce titre de savant ni de cheikh, parce que un savant ou un cheikh en sens propre, c'est quand même c'est pas un diplôme. C'est pas tu as fait la Sorbonne, tu as un doctorat, tu as un diplôme, c'est pas ça. On a connu des grands cheikhs, des grands savants, peut-être qu'il n'a jamais été à l'université. Hein. D'accord, mais ça n'empêche pas, c'est des savants vraiment de haut niveau. Il faut que la Oumma reconnaisse la Oumma tout entière. Et c'est qui la Oumma? C'est ça, la majorité des savants reconnaissent. D'accord. Quand il y a un savant que beaucoup de ses adeptes, on va dire, le reconnaissent en tant que grand savant du siècle, spécialiste dans la science du hadith, et qui rapporte aucun hadith par chaîne de transmission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se pose des questions. Donc, quand vous avez des gens qui connaissent 300 000 hadiths, avec chaîne de transmission, commentaires, etc., etc., ça c'est un savant. Et qui ramène, et qui ne contredit pas ce que les autres savants qui ont existé avant lui depuis 14 siècles, il ne les contredit pas. Il peut les contredire s'il a la capacité scientifique dans une, deux, trois questions. Il ne peut pas les contredire dans 90% de ce qu'ils ont ramené. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas remettre en cause toute une histoire d'une nation, d'une Oumma plutôt, qui a daté 14 siècles, 15 siècles, et qui était maître du monde pendant 8 siècles, quand même. Oh, parce que, tiens, oh là là, au 20e siècle, il a trouvé un hadith. Mashallah. Au 21e siècle, il a trouvé un hadith, hop, il va nous sortir une prière. Voilà le prophète, comment il priait. C'est comme si la Oumma, pendant 15 siècles, elle ne s'est pas rendue compte. Et lui, il est venu, il a trouvé un hadith qui nous montre comment le prophète a prié. C'est-à-dire que l'imam Malik, qui a étudié chez 900 cheikhs, ces 900 cheikhs qui ont étudié chez les sahaba, et les sahaba qui ont appris chez le prophète, n'a pas vu ça, et que l'imam Abu Hanifa, qui avait 4000 cheikhs, dont 6 étaient des compagnons du prophète, ils n'ont pas vu ça, que l'imam Ahmed, qui connaît 1 million de hadiths par chaîne de transmission authentique, n'a pas vu ça, que l'imam Shafi'i, qui est l'imam de l'imam Malik, n'a pas vu ça. Quand même, il faut avoir l'audace pour dire que tous ces millions de savants qui nous ont précédés sont passés à côté de la plaque. Et il faut être sérieux, des fois, c'est-à-dire, maintenant, il suffit qu'on a, avec tout le respect, je dois manger de la barbe, hein, un khamis, etc. Il suffit d'avoir une grande barbe, un grand khamis, et faire un discours avec une langue arabe, un peu, on va dire, langue de bois, et crier, t'es un grand savant. C'est pas comme ça. D'ailleurs, si tu cries, tes princes avant. Alors déjà, il ne faut pas crier. Il ne faut pas crier. Donc, il faut parler doucement et calmement. Ensuite, il faut voir le discours, s'il concorde, il est dans la cohérence de notre Oumma depuis 15 siècles, historiquement. Et géographiquement, s'il concorde à ce qu'il est dit dans toutes les universités musulmanes aujourd'hui. Ce n'est pas dans un seul endroit, il y a un discours, voilà, j'ai les médias, j'ai les sites internet, j'ai les maisons d'édition, je publie ce que je veux, alors c'est moi la sunna. Ah ben tu peux dire ce que tu veux, hein, tu n'es pas la sunna, je suis désolé. Tu es l'argent, mais tu n'es pas la sunna. D'accord. Donc déjà, c'est quoi ta chaîne de transmission jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va voir. D'où tu as appris cette science? Ah, c'est ça. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, les hadiths, au début, les sahaba, quand ils rapportaient les hadiths, ils ne s'intéressaient pas, ils ne vérifiaient pas qui est-ce qui a dit, parce que c'est des gens pieux. Ils disent le hadith, voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Mais à un moment donné, quand des sectes et des groupes sont rentrés à l'islam, ils ont commencé à falsifier, à fabriquer des hadiths. Les savants, ils ont commencé à dire, non, il faut vérifier. D'où tu portes ça? D'où tu ramènes ça? D'où tu ramènes ça? C'est quoi la chaîne de transmission de ce hadith? D'accord. Imam Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un grand savant, tabi'in, dans le commentaire de l'imam Muslim, dans l'introduction de Sahih Muslim, commenté par l'imam Nawawi, nous rapporte une parole d'or de ce grand cheikh, un alim, pieux, qui dit « Al-isnadu min ad-din » La transmission fait partie intégrante de notre religion. Et si ce n'est pas la chaîne de transmission, n'importe qui dira n'importe quoi. C'est-à-dire, toute chose qui nous vient, elle vient. Et ça, c'est une spécificité de la Oumma musulmane. Ça n'existe pas, cette sens de chaîne de transmission, dans le sens du hadith, ça n'existe pas dans les autres communautés. D'accord? Mais chez nous, c'est une chose très importante à laquelle nous tournons, c'est pour vérifier l'information. D'accord? C'est-à-dire, on a un hadith. On a des gens spécialistes de cette science qui vérifient le hadith dans ses fins détails. Que ce soit dans sa chaîne ou bien dans son contenu. Le sens du hadith, elle étudie deux choses. La chaîne de transmission et le contenu. Même si la chaîne, elle est authentique, il n'y a rien à dire. Et le contenu, ce n'est pas n'importe qui va voir le contenu. Il y a une science très pointue, ça s'appelle l'ilal. C'est-à-dire, ils vont passer au microscope chaque mot, chaque lettre. Ils connaissent très très bien que s'il y a ce mot-là, devant ce mot-là, ce n'est pas le prophète qui l'a dit, impossible. Ça c'est, elle a une faille, point de vue langue arabe, le professeur Asselin, c'est le meilleur des gens qui connaissent l'arabe, donc il ne peut pas dire ça. Donc, c'est toute une spécialité. C'est pour ça que j'ai ouvert cette petite parenthèse. Parce qu'on a des gens aujourd'hui qui disent « Non, le professeur Hassan, ce n'est pas la meilleure des créatures. » Alors, c'est qui? Le meilleur des créatures, pas des humains. Ils te disent « Oui, le meilleur des humains. » Mais on ne sait pas. Ah ben, tu ne sais pas, tu te tais. « Man araf hujja ala man lam ya'arif » Celui qui connaît a plus d'arguments, c'est lui qui doit parler, celui qui ne connaît pas, il se tait. Il dit « On ne sait pas. » Ah ben, tu ne sais pas, tu ne dis rien, mon frère. Tu ne dis rien. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas écrit un autre nom devant son nom. On n'a pas entendu dire la ilaha illallah, je parle autre chose. On a entendu dire que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On n'a pas entendu autre chose. Qui est-ce que subhanallah, le jugement dernier, peut venir faire la shafa'a devant toute l'humanité? Qui? Personne. Les grands prophètes nous diront non. Les grands prophètes. C'est Nuh, c'est Adam, c'est Isa. Parce que l'humanité, c'est une journée terrible, le jugement dernier. C'est une journée terrible. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ, c'est Abdullah ibn Abbas. Il dit, c'est une journée terrible, au degré que tellement c'est terrifiant que la maman qui tient son bébé, elle va le lâcher, elle va courir. Alors, c'est-à-dire, c'est de la métaphore, mais... le bébé, il aura des cheveux qui vont devenir blancs. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quoi cette journée-là. Et qui est-ce qui osera intervenir pour que Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire pour la shafa'a, il va intervenir aux gens. Après, les gens qui disent, bon, l'intervention, écoutez, il n'y a pas de tawassul, il n'y a pas de shafa'a. Comment ça, il n'y a pas de tawassul? Ah ben, tu ne fais pas de tawassul, mais Ne fais pas ta wassul ici dans cette vie d'ici-bas, ne demande pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jugement dernier. Tu demandes directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ah ben, le jugement dernier, personne ne va parler. Il y a un seul qui va parler. L'humanité va se diriger vers Sidna Adam, Sidna Adam dit, moi j'ai fait une faute. Dans le paradis, vous allez voir Noé. Sidna Noé, il dit non. Moi, je suis resté 1350 années, les gens ne m'ont pas suivi, vous allez Adam ou Noé, Idriss. Ensuite, il va demander Ibrahim. Chaque prophète va dire, vous allez voir le prophète. Jusqu'à ce que l'humanité va voir le prophète Sidna Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il va dire le prophète? Analaha, analaha. Je suis pour elle. C'est-à-dire, je suis pour cette tâche. Shafir ou le Mushafa. C'est l'un de ses noms, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shafir, il intervient pour l'humanité. Pour les croyants. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, Is'al tu'ta. Demande, on te donnera. C'est pas n'importe qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, c'est pas n'importe qui. Malheureusement, on ne le connaît pas, nous les musulmans. On ne le connaît pas. On connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, d'une façon très superficielle. Très superficielle. C'est-à-dire, on connaît ce qu'il a fait, il a été, il est né, ceci, cela, son père, ceci, cela, il a immigré. Quand on lit la sirah, mais il faut aller beaucoup plus loin que cela. Il faut voir la dimension spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son rôle. Comment il éduquait. Il suffit qu'un regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam bouleverse une vie d'une personne, d'un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a éduqué, qui lui a appris. Il l'a chargé de science. Toute personne qui n'a pas été à l'école et n'a pas lu, il n'a pas appris, ça c'est quelque chose de négatif. Sauf une seule créature, cette chose elle est considérée comme quelque chose de positif. Pour elle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'Ummiya, le fait qu'il est illitré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une faculté pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est ummi, il ne sait ni lire ni écrire, mais il a toutes les sciences. Allah Azza wa Jal, pour que ça soit un miracle. Parce que sinon, on va dire, oui, bon, il a été chez des philosophes grecs, bon, ben, il a appris un peu de tout, il a vu des chrétiens, machin, etc. Il l'a appris. Mais non, il ne sait ni lire ni écrire. Mais malgré ça, il a toutes les sciences, Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il a appris toutes les sciences. D'accord? Il a eu toutes les sciences. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas du tout, n'importe qui. Donc quand on dit wa afdalul khalq, la meilleure des créatures, c'est pas la meilleure des humains. Rasulullah, Muhammadun basharun la kal bashar, Muhammadun jawharatun bayna al hajar. Est-ce que le diamant est une pierre? Oui, c'est une pierre. Est-ce que comme toutes les pierres? Non, je suis désolé. Donc quand on voit sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, elle est pleine de asrar. Elle est pleine de diamants. Elle est pleine de sagesse. Elle est pleine de science. Elle est pleine d'amour. Elle est pleine de clémence. Elle est pleine de modestie. On a des qualités interminables. Interminables. Donc, il faut avoir l'audace pour dire que le prophète n'est pas le meilleur des créatures. Il faut vraiment, comme on dit nous en Algérien, c'est-à-dire, il faut vraiment avoir une fois un visage qui ne rougit pas. Hein, parce que vraiment le dire et le jour dernier rencontrer le prophète, c'est dur quand même. C'est dur. Wallah, comme disait Cheikh al-Bouti, ceux qui disent ça, Wallah, ils n'aiment pas le prophète. J'ai entendu Cheikh al-Bouti dire ça. Il dit celui qui dit ça n'aime pas le prophète. Et subhanallah. Il va parler de son père, il va parler de son chef, il va parler de je ne sais pas, il dit ah, ça c'est le meilleur. Alors, Allah, ce n'est pas le meilleur des créatures. Subhanallah. Habibul Khalqi, wa Habibul Rahman, wa Adimul Shan. Ya Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, dès que le moulid arrive, maintenant, c'est, vous savez, chaque. Maintenant, ça va être. Attention, moulid bid'a, il ne faut pas fêter le moulid, machin. Moulid bid'a. Imam Suyuti, il a écrit un livre sur le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a ramené un hadith. Billahi alaykum. quand tu as un hadith, pour le comprendre et tirer un sens de ce hadith, tu vas vers les spécialistes. On est bien d'accord. Donc, si tu as un problème mécanique, tu ne vas pas voir le boucher. Si tu as un problème médical, tu ne vas pas avoir un mécanicien. Chacun a sa spécialité. On a des grands spécialistes, mais vraiment des spécialistes tels que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui est l'un des, on va dire, il a atteint un degré très supérieur dans le sens du hadith. C'est-à-dire, Amir al-Mu'minin, c'est l'émir des croyants dans le sens du hadith, un stade suprême dans le sens du hadith. Il nous tire un commandement de hadith. Il nous dit, voilà ce qu'on comprend de ce hadith. Billah alaykoum. Comment on peut contredire une telle sommité? Surtout que beaucoup de savants, ils ont dit, il a raison. Hadith que l'imam Suyuti nous tire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un sahabi lui demande, ya Rasulallah, pourquoi tu jeûnes-tu le lundi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je jeûne le lundi parce que c'est un jour dont je suis né. En remerciement à Allah azza wa jalla. L'imam Ibn Hajar lui dit, ça c'est une preuve. Je tire un commandement de ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fêtait sa naissance. C'est Ibn Hajar qui le dit. Et c'est qui Ibn Hajar? C'est pas n'importe qui. C'est pas le premier venant. C'est le meilleur commentateur de Sahih al-Bukhari. C'est Amir al-Mu'minin fil hadith. Donc il faut avoir en moins quand même le tiers ou le un quart, le un dixième de son bagage pour le contredire. Parce qu'il ne dit pas n'importe quoi. C'est pas qu'il a voulu. Ou bien Imam Suyuti qui est le Khatib al-Hufad, qui a écrit, celui qui dit ça, qui nous ramène, qui a écrit. Même Ibn Kathir, il a un livre. Hein. L'élève de Ibn Taymiyyah, il a un livre sur la naissance du prophète. Vous avez plein de savants. Donc fêter la naissance du prophète, c'est quoi? C'est de se rappeler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas khalotala, mixité, machin, comme il nous montre dans quelques télés arabes, vous allez voir des femmes décolletées, machin, mais c'est pas la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est n'importe quoi, ça. D'accord. C'est la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est faire des conférences, c'est de se rappeler de la vie du prophète. C'est de... Et moi, ça m'a fait rire un petit peu, parce qu'en Arabie Saoudite, on fait chaque année une semaine, de célébration du fondateur du royaume wahhabite, Mohammed ibn Abdul Wahhab. En fait, une semaine, attention, pas une journée, hein, une semaine, tenez-vous bien. Et quand on a parlé à ces grands chouyours, entre guillemets, pseudo-chouyours, qui attaquent ceux qui fêtent, on leur a dit, mais écoutez, vous reprochez aux autres de fêter une journée de la naissance du prophète, vous fêtez une semaine au fondateur de votre royaume wahhabite. Ah, ils nous disent, nous, dans la fête, écoutez, ce qu'on fait, c'est des conférences, c'est des débats, c'est pour rappeler aux gens, j'ai dit, c'est la même chose que les autres fois. Des conférences, des débats, je lui dis, enlevez le mot, et j'ai fait ça, j'ai pris tout leur, ce qu'ils ont répondu, j'ai enlevé le mot Mohammed ibn Abdul Wahhab, et j'ai mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça concorde, hein? En fait, une semaine, au lieu de Mohammed ibn Abdul Wahhab, voilà, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire des conférences, tu enlèves. Et avant, les gens, ils sont, les petits-enfants, ils sont contents, leur donnent des... C'est-à-dire, il faut ramener la fierté, et le sourire, le farha, etc., de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, vous faites comme les chrétiens parce que Jésus. Bah non, je suis désolé, faut pas qu'on n'a pas de bûche, on n'a pas de dinde, on n'a pas de machin. Sur chacun. Nous, c'est notre amour à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si ton cœur ne bouge pas pour Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'autre, il va voir un match, il voit une marque, but, il commence à crier. Juste pour un match de foot. Il crie, les gens, ils voient ça normal. Hein. Normal, parce qu'il a marqué un but, bah, il crie, c'est normal, ils sont fermes, les drapeaux, machin. Et pour Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne bouge pas. Son cœur, il est mort, là. Pour Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sans. Tu n'entends même pas sallallahu alayhi wa sallam. Yani, Hajib. Et on les a vus devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun respect. On les a vus. On a été avec un frère. Hajib, subhanallah alazim. C'est pas possible. Il n'y a aucun respect. Aucun respect. S'il est devant son chef, son directeur, tu vas voir comment il va se mettre comme un petit toutou. Mais devant Rasulallah, subhanallah alazim. Allahu Akbar. Si on ne respecte pas, si on ne donne pas cette importance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on n'a rien connu de sa valeur. Soit disant, attention, il ne faut pas faire ça parce que vous allez tomber dans le... Je sais comment dire en français, la... Hein? Association. Associé, qu'est-ce que tu veux? Les musulmans, ils adorent le prophète, il n'y a aucun musulman qui adore le prophète, arrêtez de dire n'importe quoi. On n'adore pas le prophète, tous les musulmans adorent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'amour qu'ils ont pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les fait bouger. Et si toi, ton cœur n'est pas, t'as pas l'amour du prophète, bah, tu as sûrement un amour pour autre chose. Quand on te suit dans la vie, tu as peut-être l'argent, tu as peut-être... On va voir comment tu t'accroches à une chose. Lui, il s'accroche au prophète. Faut lui la paix. Laisse-le tranquille. son cœur il est attaché à Rasulallah. Et Rasulallah, ce n'est pas n'importe qui. Habl al-Matin, il est attaché à celui dont Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah Azza wa Jalla l'a élevé à un rang que personne, à un endroit, c'est dans le Mutiha, on appelle ça la limite, je ne sais pas comment. Hein? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas jujubi, machin. Hein? J'ai vu ce mot-là, mais bon, moi j'ai peur des traductions, franchement, mais bon. Parce qu'en général, quand on traduit, on prend du christianisme, vous voyez, pour rapprocher, mais donc, bon, j'ai vu une traduction, hein, comment ça les limites du jubilé. Jubilé, voilà. Donc, c'est parce que, il y a une sœur, elle a posé la question, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été élevé, le mi'raj, d'accord, à cet endroit, c'est pas pour rencontrer Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est pas un corps, attention. On a dit dans nos premiers cours, tout ce que tu imagines, Allah, c'est pas comme ça. Donc, c'est pas la peine d'imaginer. Tu vas te faire critiquer pour rien. Donc, Allah Azza wa Jalla nous a appris à le connaître à travers ses attributs, pas à travers son essence. Bien que nous allons le voir, le jugement dernier. D'accord. Mais comment on va le voir dans le cours qui va venir? On va le voir sans direction, sans endroit, sans qu'il soit un corps, etc., etc. Nous devons croire à cela. Et l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, extraordinaire, l'un des fondateurs de cette science, les Mu'tazilites qui disent non, on ne peut pas voir Allah Azza wa Jalla au jugement dernier. Parce que quand on voit une chose, il faut qu'elle soit, on va dire dans toutes les trois dimensions, quelque chose, physique. Chouf, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, déjà à son époque, ça fait 13 siècles, il leur a donné un argument. Aujourd'hui, cet argument, il est ajib, subhanallah. Il leur a dit, vous dites que quand on voit une chose, il faut qu'elle soit. Parce que eux, c'est la raison, les Mu'tazilites. Il faut qu'elle soit un corps limité, etc. Il leur a dit, vous voyez des choses dans la glace? Ils lui ont dit, oui, on voit des choses dans la glace. Il leur a dit, est-ce que ces choses-là dans la glace que vous voyez, c'est des corps? Ils ont dit non. Je veux dire, classe. Je vais vous donner un argument dans cette vie d'ici-là, pour vous dire qu'Allah Azzawajal est capable de tout. C'est lui qui a voulu que vous verrez des choses de cette façon. Le jour où il voudra vous montrer des choses d'une autre façon, il vous le montrera. Parce que vos yeux aujourd'hui, Allah leur a donné des caractéristiques bien déterminées à un monde bien, etc. C'est pour cela quand il a voulu, Allah Azza wa Jal a donné une faculté à Sidna Omar ibn al-Khattab, quand il était sur le mimbar, de voir l'armée musulmane qui est loin, à plus de 300-400 km, il les voit. Et non seulement il les voit, mais il leur parle. Allah lui a donné ce prodige. Donc c'est Allah qui fait tout. C'est ça notre croyance en tant que sunnite. C'est Allah qui fait tout. Donc si Allah Azza wa Jal veut le jugement dernier, sauf qu'il nous a envoyé un texte, nous devons croire. Il nous a dit, vous me verrez le jugement dernier, on croit ça. Ensuite, rentrer dans le polémique, machin, comment, etc. Ben non, il a dit, on le voit, il n'y a pas de problème. C'est lui. Les sahaba, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des gens, le jugement dernier, ils vont marcher sur leur tête. Les sahaba, ils étaient étonnés. Alors, comment ça, ils vont marcher sur leur tête? Il leur a dit, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam remet les choses dans l'ordre. Ce que vous voyez aujourd'hui, qui est devenu quelque chose de normal, bien sûr, Allah Azza wa Jalla, ce sont des lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans cette vie. Et ces lois-là, elles ne sont pas faites d'elles-mêmes. C'est Allah qui a voulu que la loi soit ainsi. D'accord? Il n'y a aucune chose qui fonctionne d'elle-même. Le médicament, quand tu as mal à la tête, que tu le prends, c'est Allah qui a voulu que ce médicament guérisse. C'est pas le médicament, il dit, moi je suis aspro, tu me prends... Non, c'est pas lui, c'est Allah qui a voulu que tu le prends. Il a créé des lois, il nous a dit, respectez mes lois que j'ai créées dans cet univers. C'est ça. Donc le jugement dernier, il y aura des lois qui vont complètement changer. Complètement changer. Il nous a parlé, Allah subhanahu wa ta'ala, de quelques lois qui vont changer. De la nature, etc. Mais bon, déjà après la mort, c'est-à-dire ces lois-là changent. C'est-à-dire, déjà, l'âme, elle n'est plus dans son... elle est dans un autre monde. Mais faut, Michel. Donc, Afdalul Khalqi, ala l'itlaqi, Nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est le meilleur des créatures. Il est
Dans l'absolu.
Dans l'absolu. C'est-à-dire, meilleur des créatures, pas des humains seulement. Des djinns et des ins. Il est envoyé aux humains comme aux djinns. Il n'est pas envoyé qu'aux humains, aux djinns aussi. Hein? Sortes de djinns, lisez sortes de djinns. Nafar. Les djinns, on n'en a pas parlé. On a parlé des anges, on n'a pas parlé des djinns. Allah Azza wa Jal les a créés de feu. Donc ils ont, pour pas rapidement, hein, pour ne pas trop détailler, parce que ça ne fait pas partie. Les djinns, en ce qui nous concerne, d'un point de vue de croyance, ce qu'il faut croire pour les djinns, qu'ils existent. C'est-à-dire, tu crois que les djinns existent, puisqu'Allah Azza wa Jalla en parle, il faut croire en Al-Karim, point. Ensuite, les détails, ce sont des choses, ça ne rentre pas dans l'obligation. C'est des choses que c'est bien de les connaître, etc. Que ce sont des gens, des créatures qui ont été créées de feu. Ils ont des facultés, des capacités et des choses que Allah Azza wa Jalla leur a données, qu'il n'a pas données aux humains. D'accord ? Et vice-versa. Ils peuvent prendre des formes, et comme ils sont créés de feu, donc ils peuvent se déplacer de façon, on va dire, très, très, très rapide. C'est comme la lumière, hein. c'est le feu. Donc c'est rapide. Hein. La vitesse de la lumière, c'est combien ? 300 000 km par seconde. Donc c'est ça. Peut-être un peu plus. Donc ils font des choses, etc. Ils prennent les formes des humains, etc. Donc il y a parmi eux des gens, vous trouvez un djinn musulman, un djinn chrétien, un djinn bouddhiste, un djinn athée, etc., etc. Donc il y en a ceux donc, qui ont nafar. C'est-à-dire il y a des nafar qui ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont été voir leur tribu, leur communauté pour dire voilà, on a entendu il y a un prophète qui est envoyé. Donc ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a rencontrés 6 fois. Il y avait des sahaba, ils sont venus. Donc il est parti le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe de djinns. Les sahaba qui ont rapporté le hadith, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se diriger vers une montagne. Ensuite, ils ne l'ont pas vu. Donc ils ne l'ont pas vu. Il est parti dans les djinns, il les a rencontrés 6 fois, il leur a appris la religion. D'accord ? Donc ensuite, ils apprennent, etc. Ça s'appelle les nafar. Donc vous avez des grands, parmi eux, des grands savants, etc. Donc ils apprennent chez les djinns, etc. Et vice-versa. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur les djinns rapidement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un arabe pur. C'est un arabe. Parce qu'on a, on commence à entendre parler, bon, le prophète, c'est pas un arabe. Non, c'est un arabe. Bon, à part, il y a des gens maintenant, ils disent pas un arabe. C'est un arabe, ça. Il est de la tribu de Bani Hashim. Non. Donc il est né à la Mecque. Bani Hashim. Hashimite. Donc il a immigré de la Mecque vers Médine. Donc il est enterré à Médine. Le prophète, chaque prophète où il meurt, c'est dans cet endroit qu'il soit enterré. D'accord ? Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du voyage nocturne vers Jérusalem, vers le Quds, et de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un des miracles. Donc, il est parti sur le Burak, cette créature, l'a mis à sa disposition, parti avec Sinaï Jibra'il, arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Jérusalem, au Quds. Donc, il a prié, et derrière lui, il a prié en tant qu'imam dans cette mosquée-là. Et la mosquée de Quds, c'est pas là où vous voyez la coupole. D'accord ? Vous avez une autre mosquée juste à côté, pas loin. Elle est rectangulaire, ancienne comme ça, c'est dans cette mosquée-là. Donc il a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes derrière lui. Est-ce que tous les prophètes ils sont morts ? Oui, ils sont morts, mais ils sont morts, mais ils sont dans un autre monde, ils sont vivants. D'accord ? Sinon, les morts, comment ils vont venir prier derrière un vivant ? Donc ils sont vivants, tous les prophètes sont vivants. Derrière, la preuve, ils ont prié. Comment elle est vie ? Ben, on ne connaît pas beaucoup de détails, l'essentiel, ils sont vivants. Donc ils ont prié derrière lui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a monté dans les cieux, dans chaque ciel. Jibril lui parle de chaque ciel, ce qu'il y a dans chaque ciel, etc. Il lui a même parlé de l'enfer, des gens de l'enfer, comment ils sont. Il a parlé du paradis, des gens qui rentreront au paradis, etc. Jusqu'à arriver à un moment donné, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé pour l'honorer. Différemment à quelques croyances, c'est une secte, hein, je dirais une secte un peu égarée, pour ne pas hésiter, c'est les wahhabites, hein, ce sont les wahhabites, c'est un mouvement, on va dire, qui vient des anciens anthropomorphistes, hein, qui ont existé dans l'histoire musulmane, les karamiyas, on les appelle. Ces karamiyas, donc, qui ont cru que Allah il a un corps, qu'il s'assoit, qu'il descend, qu'il bouge, qu'il a une main, il a un pied, etc. Plus ça, c'est grave, c'est pas la croyance musulmane. On est dans l'anthropomorphisme, on est dans le christianisme en fait. Hein. Quand vous allez au Louvre, vous allez voir comment on dessine, vous allez voir pas mal de tableaux. Hein. Dieu, voilà, il est grand comme ça, comme un vieux, il a une grande barbe blanche comme ça, le sage, etc. Il a le paradis, il va faire chier, la terre en dessous, les anges qui entourent, ça fait beau, un beau tableau. Moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne tient pas la route, ça. D'accord? Donc, un Dieu qui s'assoit sur un grand siège. C'est comme ça qu'on veut un peu nous dessiner c'est une croyance un peu dérapée, qu'il y a un siège. Hein, quand il dit. Comment il traduit ça? Il traduit. Il s'est établi sur le trône. Quelqu'un qui ne connaît pas très bien l'islam, les religions musulmanes, ou le Coran, la langue arabe, quand il passe par ce verset, le Seigneur s'est établi sur le trône, ils vont comprendre que c'est pas quand même loin du christianisme. Hein. Il a un trône, il s'assoit, il gouverne, c'est comme un roi qu'il a. C'est pas comme ça. Hein. Le mot en arabe istawa ne se traduit pas déjà en français. C'est une spécificité de la langue arabe. C'est une langue de métaphore. Il existe beaucoup de mots en français qui n'existent pas en langue arabe. C'est pas pour diminuer la langue française, mais chaque langue elle a sa spécificité. On ne peut pas traduire, on peut expliquer aux gens de quoi il s'agit, leur donner le sens, etc. Mais traduire et dire voilà, donc on met dans l'embarras les gens, attention. On les pousse vers une mauvaise croyance, d'accord. Donc le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Rahman arash istawa, c'est qu'Allah azza wa jal domine le trône. Et que ça veut dire domine le trône? Pourquoi il a spécifié le trône et Allah azza wa jal domine toute chose? C'est parce que, par analogie, puisque le trône, c'est la plus grande créature que Allah a créée, et que tout l'univers rassemblé devant le trône n'est qu'une poussière. Alors imaginez comment il est le trône. Et le trône, ce n'est pas un siège. Les commentateurs du hadith, ils ont dit que c'est une sorte de coupole, etc. Ils l'ont bien fait un siège pour s'asseoir. D'accord. Donc Allah Azzawajal, quand il a parlé du trône, c'est une grande créature. Et donc on nous présente, on dit voilà, il y a les sept. Ce mouvement un peu égaré, il dit, voilà, vous avez les sept cieux, sur les sept cieux, vous avez le paradis, sur le paradis, vous avez le trône, et sur le trône, vous avez Allah. Ils sont tranquilles. Donc pour eux, et j'ai même lu des passages qui font vraiment, on a la chair de poule quand on lit ces passages-là. Il te dit, celui qui habite au 20e étage, il est plus proche d'Allah que celui qui habite au 3e et 4e. C'est-à-dire, c'est une question de maintenant, c'est grave ça. Alors j'ai aimé la réponse de l'imam Razi qui répondit au Karami déjà de son époque. Il leur dit, écoutez, de toute façon, la terre elle est ronde. Donc celui qui est là, étudie Allah, il est là-bas. Celui qui est là, expliquez-nous là. C'est pas... D'accord. Donc déjà, point de vue science astronomique, ça passe pas. D'accord. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est ni dans le monde, ni en dehors du monde. Le dans et en dehors, c'est pour les créatures. Il a créé le monde. Il est comme il était avant créé le monde. C'est très bien de retenir ça. Parce que le changement s'applique sur la créature, s'applique pas sur le créateur. D'accord? Nous, on est là, on sort, on rentre, on boit, on mange, on dort, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, laïsa kamit li shay, rien ne lui ressemble. Donc toute chose a besoin de lui, il n'a besoin d'aucune chose. Rappelez-vous la règle. Puisqu'il n'a besoin d'aucune chose. Alaysa kana Allahu ala shay'a ma'a, hadith rapporté par Al-Bukhari. Kana Allahu ala shay'a ma'a. Allah était, il n'y avait rien avec lui. Il est bien d'accord. Sinon, ce n'est pas un créateur. S'il avait toujours quelque chose avec lui, donc cette chose-là, c'est un dieu aussi. Donc il y avait Allah, il n'y avait rien avec lui. Et est-ce que quand il va créer le monde, il va devenir à l'extérieur de ce monde? Non. Donc c'est un changement pour lui. Non. Il est comme il était. Mais faut, Inch'Allah. Parce qu'on a, je vous dis ça, c'est très important, vous allez trouver, c'est pas parce qu'un livre il est beau, machin, que vous allez trouver dans les librairies ici, oh, machallah, c'est cher, machin, qu'il a, que il peut être, vous savez, on a des ouvrages jaunes, hein, ils sont pas beaux, mais c'est puissant, hein, c'est pas le fait qu'il est jaune, qu'il est doré, etc., c'est le contenu. Non.
Wahhabites et salafites, c'est la même chose.
Pardon?
Les wahhabites et salafites, c'est la même chose.
Oui, ils se disent salafites. En fait, aujourd'hui, c'est les mêmes. Hein. Wahhabi, salafite, c'est les mêmes.
Une usurpation.
Voilà, mais en fait, le nom en lui-même le nom lui-même, c'est-à-dire on le sort de ce que eux veulent accaparer. Les vrais salafis, c'est les salafs, ce sont les trois premières générations. D'accord ? C'est les trois premières générations. Parce que le mot salaf veut dire ancien. D'accord ? En langue arabe, mot salaf. D'accord ? C'est ancien. Donc ce sont les trois. Le prophète nous le dit dans un hadith. La meilleure génération, c'est celle-là. Ensuite, celle qui vient après. Ensuite, celle qui vient après. Le Qur'an, Qarni, ce siècle. Le meilleur des siècles, c'est celui-là. Ensuite, ceux qui viennent après. Ensuite, ceux qui viennent après. Donc, le prophète nous dit, le meilleur des siècles, ce sont les trois premiers siècles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gens meilleurs aussi dans les... Mais la génération en elle-même, de chouyour et de savants. Donc, ce sont ceux-là, les savants, ils ont dit, ce sont ceux-là. Le prophète nous fait allusion à la période des salafs. Comme dit le Baudé dans un livre merveilleux que vous trouvez même en français. As-salafiyyatu marhalatun zamaniyyatun mubaraka wa laysa madhhaban fiqhiyyan. Cheikh Bouti, grand savant syrien, il dit le salafisme vrai, c'est une période bien déterminée des trois premiers siècles, mais c'est pas une école qui va durer jusqu'à aujourd'hui. Bah, il vit en Europe, il prend un jean, il boit du coca, il prend le métro, il est du salaf. Arrêtons quand même, c'est pas si tu veux vraiment devenir quelqu'un du salaf, on va te donner le programme du salaf, il n'y a pas de problème. Le programme du salaf, il passe sa nuit à prier, il passe sa nuit à jeûner, il fait le vicar tout le temps, il aime tout le monde, il a de la science, il est pieux, il craint Allah, etc., etc., etc. Est-ce qu'on a 1% de ce que ces gens-là? On n'en a que l'extérieur, on prétend être du salaf. J'ai une grande barbe, j'ai un grand kamis, je prétends suivre la sunna, je suis des salaf, je suis désolé, c'est pas ça. C'est pas ça, mon frère. C'est pas ça. Il faut que tu aies déjà l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que tu aies déjà... être pieux déjà, comme ces gens-là. On ne peut pas être pieux en ayant de la haine. Comment tu peux être pieux? Tu ne peux pas. Ça passe pas. Ou l'un ou l'autre. Comment tu peux appeler les gens vers l'islam en les détestant? Ça passe pas. Tu vois, je te déteste. Allez, viens vers l'islam. Qui va te suivre? Parce que les sahaba, s'ils étaient comme ça, personne... L'islam n'arrivera jamais. En 100 ans, l'islam a gagné toute la terre. Il gagnait les cœurs des gens avant que les musulmans arrivent. Les gens se convertissent. Ils entendent parler d'eux. Alors quand ils voient... Vous savez, en Indonésie ou en Malaisie, ce n'est pas l'armée musulmane qui est entrée. Hein. C'est des simples commerçants qui ont parti de Madagascar, etc. Les gens, ils ont vu leur comportement, ils se sont convertis. Il n'y a aucune goutte de sang qui est versée dans le plus grand pays musulman au monde. En Indonésie, vous avez 500 millions de musulmans, etc. Ben, ils se sont convertis par le comportement. Alors, si on prétend être des gens du salaf, il faut déjà être quelqu'un qui est plein d'amour. Lisez l'histoire des grands salihins, l'imam Ma'ruf al-Karhi. Ça, c'est des gens pieux des salafs. Hein? Lisez l'histoire de l'imam Abilazid al-Bastami. Ça, c'est des gens des salafs. Lisez l'histoire de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Rahimahullah. Ça, c'est des gens des salafs. Quand on lit l'histoire de ces gens-là, on reste bouche bée de leur comportement, de leur sagesse, de leur rahma envers les gens. Vous entendez jamais quelque chose de mauvais envers quelqu'un. Jamais. Donc, il y a un cours qui va se tenir juste après, donc pour ne pas accaparer la salle. Donc, juste ce cours d'aujourd'hui de Tawhid, c'est pour rappeler la valeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures dont il faut retenir, et que Allah azza wa jal s'il l'a élevé dans les sept cieux, c'est pour l'honorer, et qu'il est arrivé avec Sidna Jibril à l'endroit qui s'appelle Sidrat al-Muntaha, et que Sidna Jibril, à un moment donné, lui a dit, je ne peux pas avancer avec toi, il n'y a que toi qui peux avancer, parce que moi, si j'avance, je brûlerai. Sidna Jibril, dont Allah parle dans le Coran, il dit, il a de la force. Allamahu shadidul quwa. Allah reconnaît à une de ses créatures qu'elle a de la force. Si moi ou toi ou lui reconnaît à une personne qu'elle a de la force, c'est quelque chose de fort. Mais quand Allah reconnaît qu'une personne a de la force, c'est qu'elle a de la force. Cette créature qui a de la force, elle dit, si j'ajouterai un pas, je brûlerai. Mais toi, Ya Rasulallah, tu peux avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui avance, il a plus de force. Il ne brûle pas. Parce qu'il a plus de lumière. Il est protégé. Allah Azza wa Jalla lui a donné de la force qu'il n'a pas donné à Sidna Jibril. Ce Nour. Nour, c'est une lumière. Il l'a rempli de Asrar. Toi, Ya Rasulallah, tu es le seul à pouvoir affranchir cette stade. Mais moi, il est interdit. Il n'y a personne qui est arrivé à cet endroit-là. Ce n'est pas qui va rencontrer Allah. Non. c'est qu'il l'a honoré par honneur au prophète. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أسلم عن صوت غطور إن شاء الله لا شمع بارك الله فيكم السلام عليكم